Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106 pour la radio HDR et Principe Actif, chaque lundi à 18h, rediffusée les samedis à 10h, et écoutable également en direct sur la web radio du 106, radio.le106.com. Au programme aujourd'hui, les interviews de Yaya Minté, Batane Lotto et Jean-Michel Coge.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonsoir Yaya Minté.
Bonsoir.
Né à Pékin, au Sénégal, près de Dakar, vous êtes parisien. La petite histoire veut que vous ayez appris à chanter en écoutant votre grand-mère vous chanter des berceuses en diaranké. Le diaranké, c'est une des langues pratiquées au Sénégal. Des berceuses dont vous inventiez les paroles ensemble. C'était essentiellement votre grand-mère qui a inventé ces paroles-là. Qu'est-ce qu'elle vous racontait au travers de ces berceuses ?
À travers ces berceuses, ma grand-mère m'a raconté un peu l'histoire de ma journée en disant que j'étais son soleil, en disant que... Aujourd'hui, j'étais sage, qu'elle raconte l'histoire des aventures de Yaya et tout. Et ça, ça me faisait plaisir et puis ça me donnait confiance.
Ça vous a nourri pour toute votre vie, en fait, cette histoire-là ?
Je pense que ça m'a nourri pour toute ma vie. Je pense que ça a mis une vibration en moi que je transporte chaque jour de ma vie.
Et sur scène, vous chantez encore de temps en temps ces berceuses en diaranké ?
Sur scène, ça m'arrive de chanter la berceuse en diaranké de ma grand-mère. Et c'est... Tous mes concerts, pratiquement, je chante.
Finalement, elle est un peu avec vous tout le temps, non ?
Je pense qu'elle est toujours avec moi et elle sera toujours avec moi.
Vous lui devez beaucoup à cette grand-mère.
Je lui dois beaucoup. C'est ma deuxième mère, on va dire.
Vous dites que votre but, c'est d'apaiser les cœurs et les âmes. C'est pour ça que vous chantez aussi ?
Oui, je pense qu'on a tous une mission de vie. Voilà. Et la mienne, c'est de toucher le cœur et l'âme des gens, leur faire du bien. C'est-à-dire que... Partout dans le monde, la première chose quand il y a une catastrophe qui se produit, la première chose qu'il faut faire, c'est apaiser les gens, c'est-à-dire les réconforter. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on les aide matériellement, etc. Mais les réconforter, c'est déjà la première chose à faire.
Mais d'ailleurs, c'est ce que faisait votre grand-mère avec ses berceuses.
Tout à fait.
Vous continuez à faire la même chose pour tout le monde, en fait.
Bah, j'espère toucher le cœur et la maison et leur faire du bien.
Ouais, vous transmettez ce que votre grand-mère vous a transmis en faisant ça. Chez vous, on écoutait Baba Mal, Ismaël Lô, Youssou N'Dour, Omar Péné. Vos modèles, ensuite, ce sont des figures pop parmi les plus grandes du monde occidental. C'est Prince, Michael Jackson, Billy Paul, Imani ou Jane. Billy Paul, Imani ou Jane ont accroché à votre univers. Vous citez souvent également Aaron Neville comme inspiration. Vous aviez un groupe Prestige avant de partir solo. Vous nous racontez cette aventure qui vous a mené dans plusieurs pays d'Europe. Comment est-ce que vous fonctionniez avec ce groupe-là, Prestige ?
Bah, avec mon groupe Prestige, on a commencé très jeune. On avait peut-être 16, 17 ans, 18 ans. Et on a commencé à chanter dans la rue. On a commencé à comprendre que la musique, c'était quelque chose qui créait des liens avec les gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qu'on connaît moins, etc. Et c'est une aventure extraordinaire que j'ai eue avec mon groupe. Ça m'a appris énormément de choses. On a chanté dans la rue, dans les rues de Paris, dans les rues même de Rouen,
ouais.
Rue du Gros.
Ouais.
On a fait l'Allemagne, Stuttgart, Francfort, Darmstadt, enfin plein d'autres villes. Et ça nous a énormément donné beaucoup d'expérience, en fait, par rapport aux relations entre humains.
Et en fait, on peut aller voir, hein, y a des vidéos qui traînent sur Internet de Prestige. On vous voit jouer notamment sur les marches de Notre-Dame à Paris.
De Montmartre.
Ouais. Qu'est-ce que vous partagez avec les gens à ce moment-là ? Parce qu'il y a des moments, je trouve, moi, très très forts dans la relation avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a votre voix magnifique qui sort et puis il y a ces gens qui sont en face, qui sont charmés, qui sont apaisés peut-être aussi, qui viennent vers vous. Avec qui vous échangez des regards tout en chantant. Enfin, c'est assez fort, je trouve, ces moments que vous avez partagés avec ces gens-là.
Bah, à Montmartre ou dans d'autres villes ou quand on est dans la rue, il y a une relation avec les gens. Les gens, ils ne sont pas venus pour nous voir. Ils marchent dans la rue, au hasard des rues, nous rencontrent. Et au hasard des rues, on rencontre des personnes qui ont des histoires, qui ont des douleurs, qui ont des blessures. Et parfois, la musique réveille ces blessures ou apaise ces blessures. Mais avant de les apaiser, elle les ouvre. Et c'est ça en fait la musique, la force de la musique dans la rue, c'est que à n'importe quel moment, vous, comment on peut être pris d'une émotion sur une chanson, sur une voix, etc. Et c'est ça qu'on a appris dans la rue. C'est-à-dire que l'humain, en fait, profondément, de toutes les expériences que j'ai eues dans la rue, l'humain, c'est au fond, en fait, on est vraiment des gens bien, en fait, au fond. Et on l'oublie parfois, parce que nos blessures nous font perdre un peu la tête. Et quand on n'arrive pas à les guérir, bah, on perd encore plus la tête. Et parfois, on arrive à les guérir, on sort de là, on devient lumière un peu, pour les autres, pour soi et pour les autres.
L'idéal, ce serait de pouvoir garder cet état en permanence. Alors, ce serait d'avoir de la musique ou des gens comme vous qui nous maintiennent en permanence dans cette vibration-là. Ce serait l'idéal.
Bah, ouais, l'idéal, ce serait surtout que les gens puissent se regarder et regarder leurs blessures et comprendre pourquoi ils ont certaines réactions, comprendre pourquoi ils ont certaines douleurs par rapport à certaines situations. Je pense qu'il faut faire la recherche, elle est en nous, elle n'est pas ailleurs, elle est vraiment en nous. Et donc, si la musique peut amener les personnes à regarder en eux, c'est formidable, enfin, c'est le but, quoi.
Et donc, on parlait tout à l'heure du fait que vous jouiez effectivement dans la rue, y compris dans la rue du Gros Horloge à Rouen. Il se trouve que vous avez joué il n'y a pas si longtemps que ça, au Zénith de Rouen avec Jane. C'est-à-dire que vous passez de la rue, du pavé de la rue, à des Zéniths, sans problème, vous.
Bah, je passe de la rue au Zénith sans problème et du Zénith à la rue aussi sans problème. Parce que je pense que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien. Il faut juste savoir qu'on est tous des humains et qu'on est susceptible d'avoir des choses magnifiques qui peuvent nous arriver, mais il ne faut pas croire qu'on y est en fait. Il faut toujours garder les pieds sur terre et ça, c'est le plus important.
Avec Imani, vous partagez un label, Thingzik, où on trouve également Fada Freddy, Anouar, par lequel Ayo est passé également. Il y a un côté famille un peu, j'ai l'impression, dans ce petit label français. C'est quoi cette famille?
Bah, Thingzik, c'est un label qui. Je veux dire, enfin, j'essaie de prendre on va dire que c'est pas moi qui parle. C'est un label magnifique parce que c'est vraiment familial. On se connaît tous. On vient au concert de chaque membre enfin, chaque membre de l'équipe du groupe. Pour Anouar, je vais voir ses concerts. Pour Pepe Plain, je vais voir ses concerts. Pour Imani, je vais voir ses concerts. Pour Fada Freddy, pareil. En fait, on essaie toujours de créer une famille parce qu'on a tous la même ambition, c'est de faire du bien aux gens. C'est de donner vraiment le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir éveiller le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est un label c'est un petit label qui fait des choses énormes. Comme Ayo, comme Imani, comme Fada Freddy, c'est énorme ce qu'ils ont fait sur ces artistes-là. Et je suis hyper fier et content et flatté de pouvoir être dans ce label.
Comment on arrive à fréquenter ce label-là et comment on rencontre ces gens-là? C'est comme ça, au hasard des scènes ou...
J'ai envie de dire, c'est le destin. Hein. J'ai rencontré par hasard Malik et il a entendu mes chansons, il a aimé et puis on s'est revus un an après ou un an et demi après.
Malik, c'est le boss de
Malik, c'est
ce
le boss du label, Malik Ndiaye. Et c'est le hasard en fait de la vie en fait. Parfois on suit des chemins et la vie nous amène en fait à rencontrer ce genre de personnes qui nous changent la vie en fait.
Imani, qui j'ai l'impression a une place aussi un peu particulière chez vous, elle est investie dans la lutte pour l'égalité des droits, pour la cause environnementale. Quand on vous entend chanter, on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans les interviews, on entend au loin Tracy Chapman, qui est jamais très loin. Vous avez d'ailleurs repris Baby Can I Hold You, une chanteuse engagée, avec beaucoup d'âme aussi dans son chant, le côté soul de votre musique aussi, sans doute. Vous voulez dire quoi du monde, vous, Yaya Minté? On l'a dit, on l'a dessiné un peu, mais est-ce que vous avez cet engagement que peuvent avoir Imani, par exemple, ou Tracy Chapman?
Bah, Imani, je la connais un petit peu. C'est une femme qui a une foi de justice. Oui. Ouais, elle veut que les choses soient justes. C'est quelqu'un de vraiment formidable, de quelqu'un qui a les yeux ouverts en fait, sur la vie et qui aimerait changer les choses par sa musique et par sa conviction de pouvoir changer toutes ces choses-là. Et je pense très, très. Au fond de moi, je sens vraiment que l'homme a besoin en fait de se comprendre. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de se comprendre soi-même pour pouvoir mieux comprendre ce qui est autour de nous. Et le changement, il partira toujours à partir de nous. On essaie toujours de voir le changement des autres, de regarder ce que font les autres, de regarder si les autres font mieux que nous, les autres font moins bien que nous. Non, il faut regarder ce que nous on fait en fait de mieux. C'est d'être soi et de donner vraiment une lumière en fait autour de nous.
Ça veut dire qu'il faut arrêter de regarder les autres et de juger les autres, mais
Exactement.
il faut d'abord se tourner sur soi-même et
Exactement.
essayer de faire d'être un peu meilleur, quoi.
Oui, d'essayer le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on a tous quelque chose de bon en nous. Il faut juste essayer de développer cette chose-là. et de croire aussi qu'on est des bonnes personnes et de croire qu'on est des belles personnes. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Et c'est ça qu'on devrait donner aux enfants dès qu'ils sont tout petits, que ce sont des belles personnes et qu'ils sont bons au fond d'eux et que leur destin est entre leurs mains et qu'ils vont faire ce qu'ils aiment. Ils vont essayer de faire un maximum de ce qu'ils aiment. Faut pas que on n'est pas obligé de faire ce qu'on... Il ne faut pas être obligé de faire les choses. Il faut vouloir les faire, tout simplement, et aimer les faire.
C'est marrant, on a l'impression que votre grand-mère n'est pas très loin, encore un coup. Il y a un album qui arrive, il est prévu pour début 2020. Où est-ce qu'il en est? Quelle tête va avoir le bébé? Vous savez déjà un peu ou pas?
L'album, il est en préparation. Là. Mmh. Et je parle dans cet album de... Je mets souvent la place d'une femme. Parce que j'ai une sensibilité féminine qui est très forte en moi. Peut-être ma grand-mère ou ma mère ou les femmes de ma famille. Et je suis toujours en position comme si j'étais une femme, en fait. Je prends cette sensibilité dans mon album. Donc, je parle d'amour, je parle de garder la foi face aux épreuves. Je parle de ma grand-mère, je parle de mes amis, je parle des rencontres que j'ai faites dans la rue. Je parle de tout l'ensemble de toutes ces bonnes vibes, de toutes ces vérités que j'ai pu voir, en fait, dans la rue aussi.
C'est un album qui fait le point sur tout ce que vous avez vécu, sur tout ce que vous avez engrangé, sur tout ce que vous avez croisé, sur tout ce qui vous a construit. Et donc, on a l'impression qu'il y a peut-être une autre période qui arrive.
Oui, c'est un album qui va surtout parler des rencontres que j'ai faites, mais pas toutes, évidemment. Il y en a tellement. Je faudrait que je fasse vraiment plusieurs albums. Mais c'est un album qui va être hyper positif, évidemment, et qui va parler beaucoup d'amour universel, je veux dire.
En parlant de rencontres, vous avez peut-être rencontré à l'occasion de cette tournée Tiken Jafakoli, peut-être que vous l'aviez déjà croisé. Vous ouvrez pour lui ce soir. Qu'est-ce qu'il représente, cet homme-là, pour vous?
C'est marrant parce que j'avais fait une interview avec Alpha Blondy. Et c'est un mec, voilà, c'est... En Afrique, Tiken Jafakoli et Alpha Blondy, c'est des stars, c'est des légendes, quoi. Et Tiken, j'avais déjà vu il y a quelques années, je l'avais rencontré. Et c'est la première fois que je faisais vraiment ses premières parties. Et c'est un délice parce qu'ils ont tellement de la bienveillance, ils ont tellement une sorte de sagesse en eux. Ils voient une certaine vérité, en fait, et ils nous l'annoncent, en fait. Voilà. Il nous arrose de vérité, de clair. Il y a une de ses chansons où Tiken dit nous on attend Dieu et Dieu nous attend. En fait, ça veut dire tout simplement que il faut faire les choses par nous-mêmes, en fait. Et il faut pas attendre de prier et attendre que les choses viennent par eux-mêmes, quoi. Et en fait, j'adore ces punchlines parce qu'elles sont criantes de vérité sur en tout cas sur l'état de l'Afrique.
Yaya Minté, vous nous jouez un morceau pour qu'on se quitte en musique, vous nous envoyez un peu de bonne vibration.
Darling, did I let you know how much my heart it needs close? It starts to sing when you are near. I'm so in love with you, my dear. I don't know why you love me, but I'm blessed. Nothing more, nothing less. I wanna shout it out to the heavens above. Baby, you are sweet like this melody. And I run out of mind. And I do anything for you. And I run out of mind. And I do anything for you, just to be with you. I don't know where I end and you begin. I'm so enchanted by the love we're living in. I thank the Lord for you by my side. What I feel for you, girl, I struggle to describe. Just the smell of your sweet perfume intoxicates me, sends me higher than the moon. So let us dance among the stars. My heart is yours, tonight is ours. You're my destiny. And I run than mine. And I do, 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 do anything for you. And I run, run, thousand miles. And I do, 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 do just to be with you. You elevate me with love, baby. I don't ever wanna make you cry. I open free, we're gonna make it. If you let me, I won't surely die. And I know you always be my lady, cause in my heart I feel so. You are my song and my reason, baby, you are my melody. My melody, no. And I run, 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 run than minds. And I do, 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 do anything for you. And I run, run thousand miles. And I do, 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 do just to be with you. And I give you anything, anything for you. And I give you anything, anything for you. And I run, 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 run. And I do, 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 do. Oh yeah.
Batanotto est là avec Nicolas Poignet au milieu du duo Batanotto, un groupe que l'on connaît bien sur les terres rouennaises et de la région, avec toujours cette volonté de réinterpréter des musiques populaires, des chants de travail, de lutte, d'abord dans un répertoire italien, mais aussi de temps en temps, et c'est le cas sur le dernier disque, un répertoire plus ouvert au monde, on va dire, anglo-saxon et même au-delà de ça. Dernier album en date, For a Thousand Years. Sylvia, Oli, Nicolas, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Nicolas n'a pas de micro.
Bonsoir.
Il en empruntera un quand ce sera nécessaire. Alors juste, on va refaire un tout petit bout d'histoire. Tout démarre dans la rue, à Rouen, puisque vous avez commencé à jouer tous les deux dans la rue avec Sylvia, plutôt comédienne au départ. C'est important aussi pour la scène. Et puis la recherche d'un répertoire rural, politique, de patrimoine, de chansons italiennes, paroli, qui part en Italie. C'est le moment de la rencontre, puisque vous êtes à Rome à ce moment-là.
Tout à fait.
Vous vous rencontrez tous les deux, la rencontre donc se fait en Italie. C'est de là que part votre volonté de faire de la musique ensemble. Finalement, c'est aussi de cette recherche qu'Oli faisait sur le patrimoine des musiques italiennes.
Oui, disons, on peut le... Oui, c'est un bon condensé, ouais. Effectivement. Ouais. C'est comme ça qu'il s'est passé, hein, Olivier. Ça fait très longtemps, hein, quand même. Ça fait bizarre d'entendre l'histoire revenir aux origines.
Oui, mais c'est normal parce que c'est ce qui est la racine de ce que vous êtes encore aujourd'hui,
fait.
Forcément.
Tout à fait.
Vous nous parlez aussi de ces chansons, justement, de cette musique d'Italie qui est à la base de votre répertoire. C'est quoi cette musique, ces chansons?
C'est très varié le choix qu'on a fait, hein, parce que cette tradition orale, donc de transmission, ces chansons qui ont été transmises de génération en génération, on va dire, et puis à un certain moment, ils ont été aussi mises par écrit par des gens qui étaient intéressés, notamment dans les années 70, et qui étaient intéressés à maintenir la mémoire de ça, parce que la façon de vivre, comme on vivait d'antan, ces chansons-là disparaissaient. Dans les années 50, il n'y avait plus les chants, la vie des chants et tout ça. Donc, mais on
les chants se cultivent.
Tout à fait.
Ouais.
Non, mais parce merci, que... merci. Oui, mais on traite pas que du répertoire rural, aussi roumain. Donc c'est vraiment très varié ce qu'on fait. C'est difficile de... On peut dire que c'est un répertoire populaire, donc en général, il n'y a pas d'auteur. Mais, parce que c'est perdu la mémoire, il n'y a que des interprètes. Et donc, la mémoire de ces morceaux-là arrive jusqu'à nous grâce à des interprètes, en fait.
Et vous qui êtes italienne, ce sont des chansons qui existaient aussi dans la mémoire familiale, par exemple, ou pas ?
Bah, il y a eu des belles choses que j'ai redécouvertes et que me font encore penser à mon père, par exemple. Et parce que c'est des sonorités aussi, même si ce n'est pas cette chanson-là, mais c'est des sonorités qui sont ancrées en nous. Il n'y a rien à faire. Mais dans notre parcours, tu te rappelles, Olivier, ne t'endors pas.
Oui.
Regarde. On a rencontré des gens qui... une dame qui était asiatique, non ? Tu te rappelles ? Qui avait reconnu une mélodie. Elle avait reconnu une mélodie et dit, mais moi, cette chanson, je la connais.
Ouais.
Elle était asiatique, je ne me rappelle plus de quel coin. Et effectivement, c'est des mélodies qu'on retrouve partout.
Ouais. On va en parler de ça, mais Oli, juste la démarche que vous aviez, enfin on va se tutoyer parce qu'on se connaît, la démarche que tu avais, toi, quand tu es parti en Italie chercher ces chansons-là, c'était quoi cette démarche-là ?
Moi, c'était vraiment partir à la découverte. Hein. Découverte de quelque chose qui m'était parfaitement, vraiment inconnu. Pour moi, le monde s'arrêtait en dessous de Paris, quoi. non, j'avoue ma grande ignorance, mais c'est justement quand on est vraiment... On se rend compte de notre ignorance qu'on commence à apprendre. C'est la condition de toute connaissance, c'est de se reconnaître, au moins ne pas savoir. À partir de là, c'était très facile d'ouvrir les portes, les fenêtres qui m'ont été ouvertes par quelqu'un de la musique italienne qui est très important là-bas. C'est Giovanna Marini. Et qui a également une école. Et donc j'étais parti aussi cultiver ma voix, c'est-à-dire en même temps faire école d'interprète. Et à partir de là, c'était un contact incessant au contact des chanteurs, des musiciens, et puis donc une culture vocale aussi, avec un chant dit de voix naturelle. Donc c'est le bel canto, comme on dit à l'opéra, mais de voix naturelle. Donc c'est un timbre très particulier parce que c'est un chant qui s'adapte aux extérieurs, aux grands espaces, aux montagnes, aux plaines, le chant de travail, donc pour résister aux fatigues. Donc le chant, techniquement parlant, la voix est poussée, elle est extrêmement poussée. C'est un chant, comme elle dit elle-même, le chant de la survivance, de la survie. C'est-à-dire tu chantes pas, t'es mort. Voilà. Donc pour moi c'est très simple parce que... Je n'avais aucun préjugé, aucune formation dite musicale. Et c'est ce qu'elle retrouvait dans ma voix. C'était ce côté parfaitement pur et impur en même temps. Puisque c'est du bel canto, des fois un peu... c'est particulier.
Punk enfin,
ouais. Ouais, moi je me retrouvais
punk.
Carrément dans le punk, ouais, bien sûr. Ou le chant de stade aussi, je dis souvent. Les chants des ultras et tout ça, tu vois. Enfin,
ouais, c'est vrai que vous êtes... Tu es supporter de l'AS Roma.
Ouais, et pas tout seul, hein.
Non.
On est des millions.
Ouais, oui, c'est vrai. Ça se porte bien, là, le club, en ce moment.
Oui, ouais, 3-0, 3-0 en Europa League et 3-0 à Brescia, face à Brescia en championnat. C'est par 3, nous. Donc voilà,
ouais.
c'est ça ou rien.
C'est juste 3 ou rien, quoi. D'accord.
Je dois confesser aussi que j'aime beaucoup les FCR. Et eux me font énormément plaisir en ce début de saison. On les sent prêts à monter, taquiner le QRM, là. Hein. on les sent vraiment derrière au
le
taquet.
Le football club de Rouen face au QRM, donc Quevilly, Rouen Métropole.
Ouais, ça peut être un beau derby l'année prochaine en national, quoi.
Bon.
Voilà. Et puis refaire aussi un peu justice. Parce que FCR est un club qui a souffert vraiment d'une mise au plus bas, quoi. Enfin, hein, on sait bien que l'URM, c'est un choix politique. Le FCR, c'est un choix éthique, c'est un choix historique. C'est le club de la ville.
Mais quelquefois se rassembler, c'est bien aussi.
Quelquefois se rassembler, mais ouais, mais sous quelle couleur ?
Ah, alors ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une histoire de supporters, c'est encore autre chose.
Bah, oui.
Sur certaines chansons, on va revenir quand même à la musique, on entend le bourdon, je pense à Fémini par exemple, celui de la vielle auvergnate ou bretonne, du blues du Mississippi, des cornemuses, ce bourdon qu'on trouve partout sur la planète qui accompagne les hommes, les femmes, ou qui les transporte ailleurs peut-être aussi. C'est ça le bourdon ? C'est quoi ce bourdon dans Fémini ?
Bah, c'est le travail partagé, dans le sens où ça donnait le rythme vraiment et la voix commune. Parce que ces chants-là, ils étaient chantés et connus par tout le monde, donc c'était partagé. Donc ça faisait union culture, ça faisait culture. Et tout le monde connaissait ces chansons-là. Puis tout le monde écrivait peut-être un texte alternatif. À partir d'une mélodie.
Mmh.
Et comme ça, ça se... Mais c'est vrai que les bourdons, c'est l'âme, entre guillemets, du peuple. du peuple qui travaille, notamment féministe, c'est le chant de tabac, de travailleurs du tabac. Donc c'était que des femmes et des enfants, parce que pour travailler les tabacs, il fallait des mains délicates et petites. Et puis moi, je dis souvent en concert que bon, ça coûtait moins cher en plus, la main d'œuvre, parce que femmes et enfants, vous imaginez que, on peut imaginer que
à l'époque, ça coûte moins cher que les hommes tout le temps, mais ça, c'est encore le cas même à certains endroits.
Ouais. Tout à fait.
Et donc, en concert, vous expliquez aussi les chansons que vous chantez, vous donnez le sens de ce que vous chantez aussi au public. C'est important aussi, ça.
Oui. Bah, on donne une clé, en fait. Après, ça dépend dans quelle configuration nous sommes. Parce que si c'est un cabaret, par exemple, c'est plus adapté aussi à raconter. Les gens sont en demande. Mais ça dépend de lieu, mais toujours. Donne toujours une clé, parce que c'est vrai, c'est important.
Nicolas, peut-être on va vous donner la parole, Nicolas Poignet. Vous qui êtes un guitariste repéré sur Rouen notamment, mais peut-être même au-delà, qui s'est en tout cas repéré. Comment est-ce qu'on s'adapte au répertoire des Batanloto? Est-ce qu'on s'intéresse justement à ces chansons populaires? Est-ce qu'on arrive avec sa guitare et sa technique et puis on amène ce qu'on a amené?
Oui, je crois que c'est la dernière option. C'est-à-dire que je ne connais pas vraiment les textes de toutes les chansons, sauf quand c'est en anglais, mais en italien. Donc, j'espère que ce n'est pas des appels au meurtre qu'il y a dans les textes. J'espère.
Ouais, enfin,
je
espérons.
Pense que ça devrait aller. Donc, du coup, j'essaye d'apporter ce que je sais bien faire et aussi ce que je sais mal faire dedans. Voilà. Essayant de ne pas toujours faire la même chose sur les chansons, parce que ce qui est difficile, c'est que dans les chansons, pardon, c'est qu'elles ouais, elles sont très simples au niveau harmonique, entre guillemets, hein, sans vouloir faire le péteux. Ah si, je le fais quand même. Du coup, faut chercher quelque chose quand même de... Enfin, j'essaye en tout cas de trouver quelque chose d'original, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye.
On pourrait presque entendre aussi des chants indiens. On parlait de ce bourdon qui parlait à la planète entière. On entend des chants indiens d'Amérique, peut-être quelque part au fond de certaines chansons. Il y a des tablas indiens. C'est l'international de la musique du travail, finalement, aussi, à un moment donné. Sur votre site, vous présentez votre musique, ces chansons, donc votre façon de faire, faisant le grand écart justement entre les mondes, la ville, la campagne, le moderne, le patrimoine, le blues, punk rock et l'ethno folk, et entre la France et l'Italie, forcément. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir relier les choses quand on aimerait bien que tout le monde reste dans sa case?
Bah, déjà, la musique, c'est un exemple de cette union, parce que la musique n'a pas de frontières. Même quand tu franchis la frontière, c'est là que tu trouves des choses originales, intéressantes, riches, humainement, culturellement, musicalement. Donc, il n'y a que faire les pas, quoi. Aller à l'encontre et découvrir aussi les différences et les similitudes aussi, parce qu'on trouve le langage, c'est le même. Donc, c'est magnifique quand il y a cette fusion, en fait. Et aujourd'hui, bah, on le sait bien, le rock, c'est ça, c'est une fusion entre le blues, la musique des Noirs, donc africains. Nous, on fait que parcourir, faire un peu un chemin similaire, mais aujourd'hui, c'est mondialisé. Donc,
mais vous avez ouvert les portes un petit peu, parce que en partant du répertoire des chansons italiennes, aujourd'hui, on entend des tablas dans ce que vous proposez. On entend donc d'autres parties du monde qui viennent nourrir aussi votre répertoire. Vous, ça veut dire que ça, c'est une direction que vous allez suivre ou,
Bien sûr, toujours. Toujours suivi à fur et à mesure, même à fur et à mesure des rencontres, en fait. C'est toujours été prendre cette occasion quand il y a une nouvelle rencontre avec un musicien, le faire entrer dans notre univers et lui permettre de nous amener sa compétence, sa richesse. Donc chaque fois qu'il y a un musicien nouveau, il y a un changement, un apport nouveau. Avec Nicolas, on a trouvé quelqu'un qui a une technique, une super technique, mais aussi une liberté d'improvisation. Et ça, c'est et aussi de ne pas rester dans les clous. Parce que comme il disait, c'est très simple, simple ce qu'on fait. Pour faire quelque chose d'intéressant, il faut être bon, quoi. Parce que c'est vraiment très, très simple. C'est toujours très peu d'accord. Donc, oui, on continue quand même. Comment dire, chaque fois, c'est la
ça s'alimente
en fait.
Avec
oui.
Les musiciens
plus
qui régulièrement viennent vous voir.
Plus qu'est conceptuel, c'est toujours une rencontre qui fait que ça s'enrichit, quoi.
Alors Sylvia, vous avez proposé des chansons, enfin des chansons de Batanlotto, d'ailleurs il y en a au moins une, et vous avez chanté sur un documentaire diffusé sur France 3 en octobre dernier, intitulé « Nous étions des étrangers ».
Tout à fait.
Oui. De Fabrice Tempo et Frédéric Conti, vous nous en parlez un peu de ce film-là ?
Ouais, une très jolie aventure que j'ai partagée en partie, parce que je ne suis pas partie avec eux. Et donc, le travail a suivi les tournages pratiquement. Moi, je l'ai rejoint à la dernière scène du tournage. Et on me voit l'image, en fait, parce que c'est la dernière. Et ça a été un travail très intéressant, vraiment, parce qu'avec Fabrice, on s'est bien entendu. Lui, il m'a donné des inputs. Il avait besoin de certaines atmosphères. Et moi, j'ai fait des choix. Et lui, il a plus ou moins... Il a validé. Et ça a été assez vite, assez satisfaisant. Et puis, je trouve que au niveau créatif, et puis, je trouve que les résultats, il est aussi super parce qu'il y a énormément d'émotions dans ce documentaire. Il y a tout. Il y a la bonne humeur, il y a la mélancolie, il y a un peu tout.
On peut le voir encore hein, sur France 3.
Tout à fait. Si vous allez sur notre site, on a les liens, on a publié les liens et on peut... C'est un documentaire qui dure une quarantaine de minutes.
53
minutes. Et donc, mais ça passe très, très vite. Et
c'est un film qui parle, il faut le dire, ça parle des Italiens qui sont partis de Sicile, notamment, plus particulièrement, et qui sont venus s'installer en Normandie. Ensuite, il y a des générations qui ont vécu en Normandie. Puis ensuite, il y a eu le retour de certains Normands vers la Sicile. Et donc, ça raconte les allers-retours, ça raconte la migration, ça raconte l'étranger, ça raconte ce qu'on vit encore partout sur la planète aujourd'hui. Quoi.
Tout à fait. Et puis c'est intéressant parce que c'est un fond. Disons que le titre, il est très politique, mais il pousse pas. Il est politique en soi. L'histoire en soi, elle est politique. Quand il dit nous étions des étrangers, parce que en fait, c'est des Français. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a trois, quatre figures différentes. Et donc, les liens avec ses propres origines, de ces gens qui ont quitté la terre natale, quoi. Et donc, première, deuxième génération. Et la façon différente où on se rapporte encore à cette culture-là. Mmh. Et c'est vrai que Fabrice, il se demandait jusqu'à quand on peut dire qu'on devient, on se quitte ces racines-là. Et c'est important, très important de garder ces liens et ces racines. Donc, c'est intéressant de dire, voilà, nous étions des étrangers, mais nous sommes aussi français. Voilà, c'était ça un peu...
Vous avez choisi quelle chanson pour ce film ? On entend Tchuri Tchuri, c'est ça ?
Pour Batanlotto, ils ont choisi quand même... ils en ont choisi trois. Ils ont choisi Tchuri Tchuri, Rosa, Mama... Mm. Et c'est Tchuri Tchuri deux fois. Bon,
il fallait choisir des chansons qui disaient des choses particulières ?
Non, moi je l'ai vraiment poussé à choisir des chansons siciliennes, vraiment. Eux, ils étaient plus ouverts. Et moi j'ai dit non, c'est important. On va en Sicile, il faut faire parler la Sicile. Et disons que j'ai adoré la façon dont ils ont utilisé la musique parce qu'elle est utilisée de façon narrative. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une musique, ça fait changer la narration. Et donc, ça donne vraiment un aspect assez documentaire de fiction quelque part. Ça lui donne...
Ça donne du rythme, mais ça donne aussi cette couleur particulière.
Oui.
Au moment où l'Italie et une partie de l'Europe sont dans la peur de l'autre, un peu irrationnelle d'ailleurs cette peur, si on l'examine de près, le rejet, le renfermement sur soi, l'inhumanité qui en découle, c'est un film qu'il est important d'aller voir, moi je pense. Hein.
Tout à fait. C'est vraiment bien. Il passe France 3, en fait, il a été produit par France 3, et il est déjà passé plusieurs fois, je pense qu'ils vont le reprogrammer, mais on le trouve sous la net.
Parce que l'ambiance en Italie en ce moment, c'est pas ça. Hein.
Tout à fait. Donc bon, ça allait un peu mieux parce que bon, il y a eu des changements, mais là, on craint le pire. C'est vrai qu'on craint le pire.
On parle forcément de politique avec vous. Vous avez une chanson sur les Diggers. Alors, je pense que c'est ça, c'est le collectif de contre-culture anarchiste basé à San Francisco, actif entre 1966 et 1969. Les premiers écolos, en quelque sorte, même s'il y en avait sans doute avant et qu'il y en a sans doute toujours eu sur la planète, à l'origine avec d'autres du mouvement hippie né à San Francisco. Vous vouliez rendre hommage à ces gens-là ?
C'est intéressant parce qu'en fait... c'est les Américains, ils se sont inspirés des Diggers qu'on chante. Nous, on chante les Diggers anglais et c'est à eux qu'ils s'inspiraient en fait du 17e siècle. Et ils occupaient les terres parce que c'était le moment où effectivement il y a eu le partage des terres communes entre le clergé, les puissants.
Parce que les Diggers, c'est aussi le début des communautés à San Francisco.
Mais ça, c'est en fait le chant qu'on chante, nous, il est vraiment ancien. Et les Américains se sont inspirés de ce mouvement très ancien anglais.
Donc eux, se réapproprier les terres.
Voilà. Et ils se sont inspirés de ça parce que ces gens-là, ils occupaient les terres. Mais après, bon, il y a eu l'armée. Ils ont perdu le combat, quoi.
C'était un peu les ZAD de l'époque.
Voilà, les ZAD de l'époque. Ouais. Tout à fait.
Les prochaines aventures pour Batanotto, c'est quoi alors
la suite? C'est très rapproché. On joue mercredi prochain là aux Trois Pièces,
ouais,
avec les amis marseillais, Belfégorge. Et un groupe de Limoges, Verzomen, et fort original également, sans basse, guitare, baryton, sax et batterie. Et puis on sera au Smoking Dog du Quai Gaston Boulet vendredi soir prochain, le 6 décembre, et à Montreuil, à la Comédia, toujours avec Belfégorge. Ces trois dates qu'on fait ensemble, on les invite en région.
Mais vous travaillez sur de nouveaux morceaux, il y a... Tranquille.
On a en perspective en 2020 de nouveautés.
Bon, très bien. Eh ben, on vous retrouve, voilà. On vous recroisera au moins en 2020 alors.
Ah oui, j'espère.
Merci, à bientôt.
Merci
à
toi.
À bientôt à tous.
Salut.
Bonne soirée à vous. Oui, ciao.
Ciao.
Labor, but she dresses the world she cares.
Radio Lomax.
Jeanne Chéral est ce soir dans la grande salle et puis une conférence dans le club intitulée Amouji 1969, le Woodstock franco-belge oublié. Une conférence évidemment en relation avec l'expo du moment au 106-69 année héroïque jusqu'au 21 décembre prochain. Jean-Noël Coge, bonsoir. Bonsoir à vous. Zitrone disait Jean-Noël Coge, c'est ça ?
Oui, disait Coge, mais si vous êtes sarde, vous pouvez dire Coge.
Cogué aussi.
Voilà.
Bon, vous avez plusieurs noms, c'est pratique.
Trois identités.
Il faut dire que vous êtes journaliste, que vous avez travaillé pour de nombreux journaux, pour de nombreux médias. Vous avez travaillé pour Rock and Folk, Best, France 3. Vous étiez reporter à France Inter, à RMC, envoyé spécial permanent pour RTL dans le nord de la France et en Belgique. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à Jimi Hendrix et Rory Gallagher et puis d'un livre sur Amouji que vous pourrez trouver aux presses du midi.
J'ai surtout commencé avec Disco Revue.
Alors, Disco Revue, c'était quoi ?
Disco Revue, c'est le premier magazine français créé en 1961 par un jeune nancéen de 18 ans, Jean-Claude Berton, qui va s'installer ensuite à Paris, qui va faire venir Gene Vincent dans les années 62-63 et qui va révolutionner le cours de la musique, qui va faire prendre conscience qu'il existe une musique anglo-américaine, qu'il est le rock'n'roll, qui déferle. En 64-65, il sera le premier à annoncer l'avenue des Stones, des Beatles. Et quelqu'un comme Philippe Aki a même essayé de racheter Disco Revue. Mais il y a des puristes et d'autres qui font du jazz et qui ne gagnent plus de sous avec le jazz et qui se décident à s'occuper du rock'n'roll parce que ça peut rapporter gros. C'est comme le loto. Mmh. Et donc, il n'a pas réussi. Et donc, lui, il a créé Salut les copains avec toute la dérive yéyé qui s'en est suivie.
Ça veut dire que vous êtes dans le premier wagon, en fait, en France, des gens qui commencent à s'intéresser à cette musique.
Ouais, j'étais gamin. Mais j'ai eu la chance de découvrir Gene Vincent en 59 quand j'avais 12-13 ans. Donc quand l'idée est arrivée en 61, avec son passé de jeune américain qui n'a jamais été américain, c'était intéressant parce qu'on voyait pour la première fois dans une lucarne qui est la télévision, quelqu'un se déhancher. Mais quand je lui ai demandé une dédicace deux ans après, qu'il m'a signé Jean-Noël à nous deux alleux, il ne m'emmerdait pas à savoir si on disait Coge ou Coge, mais il lui écrivait Noël à nous deux alleux. Donc on n'a jamais été copains, lui et moi, finalement.
Alors on va revenir à cet événement, ce festival en Belgique, imaginé par Joe Dekmin, monté, programmé par le label BYG de Jean...
Big,
de Jean-Georges Garacaros.
Jean-Georges Garacaros.
Vous le dites mieux, vous le dites
mieux. C'est comme Dave Didozy Biki Mikentich, c'est pas dur à dire.
Ah, vous le dites bien.
Dave Didozy Biki Mikentich,
Moi, je suis quand même capable de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous venez de dire ?
Dave Didozy Biki Mikentich, c'était un groupe anglais qui a fait gros succès dans les années 68-70.
Et ces personnages-là qui montent ce festival pour se lancer dans ce genre d'aventure, vous étiez avec eux à la fin des années 60, il fallait être un peu inconscient, non, quand même ?
Non, mais vous savez, la Belgique, c'est un pays de festivals. En 59, a été créé le festival de jazz de Comblain-la-Tour, qui, trois ans plus tard, damait le pion au festival de jazz de Newport. Parce qu'il y avait eu la guerre et qu'il y avait eu la bataille des Ardennes. Et beaucoup de jeunes GI ont vécu l'enfer dans les Ardennes et ont été aidés, protégés par les habitants des Ardennes, dont un dénommé Joe Napoli, qui est revenu, comme il l'avait promis, dans son village de Comblain-la-Tour pour rendre hommage à ces gens qu'il avait aidés. Ils avaient un problème de clocher, nom de Dieu. Le clocher de l'église allait tomber. Et Joe Napoli a dit, c'est pas grave, je vais vous organiser un festival de jazz. Parce que Joe Napoli était devenu le producteur, manager de Ray Charles, de Chet Baker, etc. etc. Et il s'est commencé à faire des festivals de ce type en Belgique. Il y a eu Bilzen en 63, 64, 65, où il y avait une affiche aussi alléchante que celle d'Amouji. Et il y avait le Théâtre 140. Alors, le Théâtre 140, c'est créé par Joe Dekmin. C'est un fils d'industriel du tissu qui, à la fin de la guerre, en tant qu'étudiant, va à Paris, va chercher des artistes pour animer des soirées étudiantes à Bruxelles. Et il ramène Boris Vian et il ramène avec lui Léo Ferré, dont il devient un ami. Il devient aussi ami de Barbara, puisqu'il lui organise toutes les tournées en Allemagne, dans les casernes, etc. etc. Et avec son frère, il monte un petit cabaret. Et ce petit cabaret, il y a Brel qui dit « C'était tellement un public marginal que moi-même, je ne pouvais pas m'y produire. »
C'était en Belgique.
C'était en Belgique. Et puis Joe, il récupère un théâtre à Schaerbeek et ça devient l'adresse du Living Theatre je sais plus son nom, mais ça va me revenir, des Américains, quoi, qui sont interdits, frappés, parce qu'il y a de temps en temps un saint qui apparaît sur la scène, alors il y a la police qui se lève, qui dit « Arrêtez le spectacle !» etc. Le Living Theatre de Julian Beck. Et donc, tout ça. Et donc, il est proche de Moustaki, il est proche de Pierre Barou, qui, eux, tous, commencent leur carrière en Belgique, pas en France. Et puis, un jour, il s'aperçoit qu'arrive le Pink Floyd. Et entre 67 et 68, il programme 8 fois le Pink Floyd. Ils n'ont jamais joué en France, mais ils ont déjà joué 8 fois en Belgique. Mmh. Donc, il y a tout un truc. Moi, j'ai écrit sur le Pink Floyd en rock et folk. Alors, il me met dans son association, qui est Musique Aujourd'hui, qui doit casser les barrières. On peut aimer Gainsbourg et on peut aller voir Pink Floyd. On peut aimer Pierre Barou et aller voir Pink Floyd. Et puis, Pierre Barou, c'est déjà l'époque de Higelin, Brigitte Fontaine, qui, eux, vont régulièrement au Théâtre 140. Alors, il dit, ouais, je vais faire un festival à Anvers. Et donc, ils montent un festival avec Nice, Colosseum, Yes, tous des groupes comme ça, qui sont en devenir de devenir des grands. Ils ne sont pas encore grands, ils vont devenir des grands. Et puis, ce festival, il me dit, tu sais, si jamais on réussit, que ça marche, il faut aller à Paris, il faut dire à nos amis français, faites le festival à Paris.
Et c'est comme ça qu'effectivement, un projet de festival à Paris est en train de naître. Et malheureusement, il y a mai 68 qui est passé par là. Malheureusement ou pas d'ailleurs, puisque du coup, le festival va retourner en Belgique à Amougies.
Ouais, c'est pas aussi simple que ça. Ça se passe en juin 69. Moi, en juillet, mi-juillet 69, je vais à Paris chez Pierre Barou, qui dit, ouais, moi, pas trop, mais à côté, dans le bureau d'à côté, on héberge un jeune producteur de disques, ça va l'intéresser. Et c'est là que je rencontre Gorga Caracos, qu'on appelle Caracos, et qui me dit, viens, on va prendre un petit déjeuner. On va prendre un petit déjeuner, il était 9h du matin. On va prendre un petit déjeuner au pied aux Champs-Élysées, là-bas. Et il me dit, écoute, pourquoi vous voulez faire ça? Alors j'explique, mélanger les genres musicaux et tout. Et lui, il dit, ben écoute, fais la programmation rock, moi je m'occupe du jazz, on met un peu de musique contemporaine et trouve-moi un lieu dans Paris. Moi je connais rien à Paris, je déteste Paris. Alors comme on était en train de vider les Halles Baltard, je vais trouver que les Halles étaient un lieu merveilleux pour pouvoir faire des spectacles. Ce qu'ils ont découvert six mois après, ils ont même manifesté dans les rues pour ça. Pour pas qu'on les démolisse, on les a démolis. On a mis un hôtel Ibis à la place. Et donc, et moi, il n'y a pas de maire en Paris à l'époque. C'est un conseil municipal qui est chapeauté par le préfet, et tout, etc. Et donc, je vais demander, bonjour monsieur, comment on peut faire pour louer un pavillon Baltard, s'il vous plaît? Il faut remplir un papier, des machins. Bon, je dis, ok, c'est parti. Et on se retrouve à Londres à commencer à faire la programmation. Ouais, on mettrait bien Pretty Things. Ils sont disponibles, combien? Ah, Pink Floyd? Oui, bien sûr, Pink Floyd. Combien? 4000 balles? Ok, on prend 4000 balles. Mmh. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Et on se retrouve fin août. Et on n'a toujours pas l'accord pour les Halles. Alors, c'est pas grave. Caracos dit, moi, je sais comment faire. Je vais les inviter à bouffer. Je vais leur fournir des disques et puis ça ira. Parce qu'entre-temps, avait eu lieu le festival panafricain d'Alger. Alors, mai 68, la jeunesse était mal vue après les retombées de mai 68. Mmh. Mais aux États-Unis, après les émeutes de 68, suite à l'assassinat du pasteur Martin Luther King, les émeutes qui avaient éclaté avec les incendies, les morts, etc., etc., tout ce qui était musicien black free jazz, qui était plus ou moins catalogué Black Power, Black Panthers, ils avaient de la difficulté à travailler, ils avaient des difficultés à enregistrer, et Art Ensemble était déjà venu à Paris s'installer. Et il y avait une petite revue, mais alors une toute petite revue de jazz, que vraiment éditeur comme ça, que personne ne connaissait, qui s'appelait Actuel, et qui finalement ils se sont vus, ils se sont plus, ils se sont reconnus, et puis les autres étaient un peu dans la galaxie de Caracos, et Caracos a eu l'idée géniale de demander au mec d'Actuel de faire venir chez lui, dans son bureau près de l'avenue de Wagrave, tous les musiciens qui transitaient par Paris au retour du festival d'Alger.
Cet actuel-là, ça n'a rien à voir avec l'actuel de Jean-François Bizot.
Si, c'est devenu malheureusement l'actuel de Jean-François Bizot, parce que la récupération moi je suis pas d'homme crochu avec ces gens-là. Mais Caracos voulait faire un très beau bouquin. Ils en ont fait ils ont mis Caracos dehors. Ils en ont fait ils ont fait du crump, quoi. Ils ont fait du cul histoire de faire du fric.
Et alors, départ pour Amougies.
Donc les mecs viennent, tous les blacks descendent, Archichep, Cachin Moncur, ils débarquent tous dans l'avenue de Friedland, ils signent des contrats, on bloque le studio et on fait 25 enregistrements, 25 albums. Il y en a un d'Archichep dans l'exposition, il y en a dans l'exposition ici au 106. Donc, le E, bah, le festival va servir à promotionner la sortie des albums. Et en même temps, il produit des groupes français, comme Alan Jack Civilization, Hamson, etc., etc. Et tout ça va se mélanger avec la programmation anglaise qu'on a faite, anglo-américaine.
Dans ce petit village belge de 957 habitants, du 24 au 28 octobre 1969, sous chapiteau, dans le champ d'un fermier, 100 000 festivaliers, 48 groupes de rock progressif, de free jazz, Frank Zappa en maître de cérémonie.
Oui, parce que Zappa n'avait pas de groupe, et Mozart se venait de splitter. Alors Pierre Lattès, qui était aux États-Unis avec lui, lui dit bah, « il n'y a plus de groupe, il ne va pas venir ». J'ai dit « j'ai qu'à demander qu'il présente le spectacle, il y a son copain Captain Beefheart ». Et lui il dit « ok ». Et donc il est venu. Mais il faut vous dire qu'après les Halles, comme on n'avait pas d'accord, on nous a conseillé la pelouse de Reuilly, puis la pelouse de machin. Puis, c'est-à-dire que Rock en Seine, où on nous emmerde avec les 20 ans de Rock en Seine ou les 30 ans de Rock en Seine, si la France avait été un pays intelligent, on fêterait les 50 ans. On a perdu 20 ans, mais on est encore en train de se glorifier d'avoir perdu 20 ans. C'est merveilleux, c'est pour ça que le coq est l'emblème de la France, c'est le seul animal au monde qui sort les deux pieds dans la merde.
Alors dans l'expo au 106, on peut voir une dizaine de photographies de Christian Rose prises pendant le festival d'Amougy.
Qui était à Amougy, oui.
5 jours et 5 nuits, fin octobre 69, avec une programmation assez unique qui mêle donc, je le disais, rock, vous le disiez aussi, free jazz,
musique contemporaine.
Voilà, c'est ça.
Et bon, Franck... les bouteilles qui tombaient. Blum, 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 blum.
Et Frank Zappa en maître de cérémonie.
She was the daughter of a wealthy Florentine Hogan. Yeah. Freedom and wheat was a Rochester boss Logan. She was a debutante. Daisy with a color note, oh yeah. Deep in the street, she drove a 59 Morgan.
Zappa, Florentine Pogan, vous nous expliquez cette programmation tout à fait particulière, on l'a compris, ça vient de l'histoire aussi de la Belgique, de l'histoire aussi de la guerre, ça raconte tout ça, tout ce qui s'est lié entre la Belgique, ses musiciens.
C'est des liens que moi je tisse avec la réalité des choses et que les gens ignorent.
Oui.
Voilà, parce qu'en fait, à tourner, bon, le festival, Caracos, il m'appelle. Bon, moi, j'avais un peu décroché. Je suis pas un spécialiste des contrats. C'est pas moi qui vais négocier les machins. On a lancé le truc et puis chacun fait son. Joe Dekmin, lui, son intérêt, c'était quoi? C'était de doubler le spectacle de Paris avec Bruxelles. Donc, il se faisait à bon compte, il se faisait tous les groupes. Mmh. Ce qui est arrivé d'ailleurs, parce qu'il les a pas joué avec Ten Years After au 140. Ils n'ont pas fait le bœuf à Mougy, ils ont fait le bœuf au 140. Bon, tout ça, ça a fonctionné. Mais les trois pelouses qu'on nous a promises ont été refusées au dernier moment. Et alors, Caracos m'appelle, il me dit, écoute, rendez-vous lundi à tourner. J'ai dit, tu fous à tourner. Il y a à tourner, parce que tourner, on est à côté de la frontière. Là, c'est pas loin de la Belgique, d'Allemagne, la Hollande, etc. C'est un lieu qu'en central, on va se mettre là.
Là, c'était un peu visionnaire parce que c'est le cas sur les gros festivals aujourd'hui encore.
Ben oui. Toujours est-il qu'on se retrouve à tourner. Le bourgmestre n'est pas là, il voit le conseil municipal, on leur explique, vous avez 50 millions à gagner si vous êtes intelligent, etc. L'armée dit, dans plein centre-ville, on a une plaine des manœuvres qui est aérienne, vous pouvez mettre votre chapiteau là. Parce qu'on avait un chapiteau. Avec Bouglione disait 12 000 personnes, c'est impossible, les chapiteaux, c'est 4 000 personnes. Bon, encore une fois, chapiteau de 12 000 personnes, ça existe. Les fêtes de la bière, on met 12 000 personnes et sous le chapiteau. Et on ne met pas des animaux. C'est l'homme qui est le principal animal. Après, il y a trois pintes. Et donc, tout est prêt. Mais le lendemain matin, les journalistes, c'est malin, ils titrent 100 000 hippies à tourner. Alors, Tournai, qui est la ville des cinq clochers, qui a un passé protestant assuré que personne ne connaît. Donc ils sont complètement. Ils vont casser les voitures, ils vont brûler nos maisons, ils vont démolir les vitrines, ils vont violer nos filles, etc. Niette. Moi, je savais, je m'en doutais. J'étais allé à Courtrai, la ville sœur de Tournai. La seule différence, c'est que Tournai est wallonne et Courtrai est flamande. Donc, c'est deux sœurs et demie. Donc, j'avais été à Courtrai, j'avais obtenu. Il y avait un super les Halles de Courtrai. C'est un lieu comme ici, c'est merveilleux, etc. Mmh. Et je lui dis, le mec, il me fait un papier comme quoi il s'engage à donner son il donne son autorisation. Il s'engage à louer pour le festival de rock, de musique et tout. Mais quand la mairie de Tournai a dit non, la mairie de Courtrai, elle a dit non aussi, parce qu'elle a eu peur aussi. Et là, c'est là que le Delacherie, qui a le chapiteau, qui dit Mais moi, je connais un gars là-bas au village, il a peut-être une pâture à vous prêter. Et on va aller voir M. Decoq. Sa fermier s'appelle Decoq, c'est comme ça. Et donc, on arrive chez M. Decoq, il lui dit, bon, si ça peut vous arranger, si c'est pour vous emmener dans l'ennui, moi, je veux bien la pâture là-bas. Et papier signé et tout, gratos. Hein. Ouais. Papier signé, écoutez, oh, mais le bourgmestre arrive, il dit, enfin Charles, t'es sûr de ce que tu fais? Bon, ouais, il faut bien rendre service. Bon, si t'es sûr, on y va. Mais il y a le préfet d'arrondissement qu'on appelle, qui lui dit, tournée à refuser, nous, on doit accepter. Et le bord politique différent, attention. Alors tout le monde dit oui, on est le 17 octobre, le festival commence le 24.
Ouais, c'est incroyable.
Il n'y a pas un mec, il n'y a pas un groupe qui a dit, bon alors là, on est où là, on s'en va nous. Non, non, tout le monde dit, bah ouais, quand vous êtes prêts, on vient. Ouais. Alors le 17, l'accord signé, coup de sifflet, et le 18 au matin, Chérix et son équipe technique, machin, débarquent, chapiteau est monté, et le 24 octobre, bing, Alan Jack Civilization, Pierre Lattès, les lance sur l'enseigne et le festival démarre.
Des histoires incroyables. Jean-Noël Coge, pour nous raconter l'histoire de ce festival belge à Amougy en 1969. Toutes ces histoires, vous allez continuer à les raconter. Ouverture des portes 20h15, c'est-à-dire dans 4 minutes très exactement. Merci beaucoup Jean-Noël d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts au programme cette semaine au 106. Ça commence mercredi 11 décembre, concert de L'Épée et de Modern Men. Jeudi 12 décembre, concert de Pépite et Félixita dans le club. Pendant que jouera en face dans la grande salle, Kixa. Vendredi 13 décembre, concert de The Toy Dolls, Ludwig von 88 et Sugar on Tiger. Samedi, concert de Teiro et Balik. Et dimanche à 11h, c'est le 7ème marché de Noël au 106. Voilà, et on va se quitter avec un morceau de L'Épée, on dansait avec elle. Je rappelle, concert mercredi 11 décembre, il reste des places. À la semaine prochaine.